des héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les Héroïnes. Aujourd'hui, avec moi autour du plateau, il y a Marine Combe. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe rennais YEG, que l'on peut lire sur yegmag.fr et retrouver aussi sur Instagram, magazine_YEG.
Hop.
Il y a également avec nous Gwen Pacotte. Bonjour Gwen.
Bonjour Morgane.
Nouvelle héroïne qu'on a grande joie à accueillir. Vous êtes productrice et cofondatrice de l'agence Void qui est dédiée aux arts vivants. Vous êtes autrice, compositrice, interprète au sein du groupe anti-folk Rekin. Non, j'ai encore dit des conneries. Comment on dit ? Rekin. Rekin. Voilà, ça c'est mon côté anglo-saxon. Vous êtes également coéditrice et cofondatrice des éditions RAG. Et aussi, parce que ça va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, Gwen, vous êtes cofondatrice de l'association franco-réno-libanaise CEDARS. Alors, on recevra en deuxième partie d'émission deux invités, Clara Pacotte et Mélanie Mola. Bonjour Clara, bonjour Mélanie.
Bonjour.
On parlera avec vous maison d'édition engagée, maison d'édition rennaise, littérature féministe, lesbienne, queer, inclusive, tout ce qu'on aime ici et tout ce qui met Bruno Retailleau en PLS, Paul Christophe en PLS, Catherine Vautrin en PLS, Annie Genevard en PLS, Valérie Létard en PLS, Patrick Hetzel. Alors lui, c'est double PLS, Françoise Gatel en PLS, Laurence Garnier en PLS, Sophie Prima en PLS, bref, tout le gouvernement Barnier. Et je tenais à vous les citer pour que vous reteniez certains noms. Et alors, si vous ne deviez n'en retenir qu'un, c'est Patrick Hetzel. Franchement, lui, retenez-le, c'est un enfer. Qu'il soit en PLS, pour nous, c'est une réjouissance supplémentaire. Voilà, c'est dit. Marine, on va commencer avec vous parce que aujourd'hui, Marine, vous avez des recommandations littéraires. Pas piquer des hannetons, mais avant cela, on va parler science. Ouais, j'avais envie de sortir.
Allez, c'est bien cette expression.
Cette vieille expression d'avant 1960. on va parler science d'abord.
Exactement.
On va se réjouir et un peu moins.
C'est ça. C'est une petite actu dans le grand bain médiatique. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit, malgré un contexte plutôt favorable, hein, puisque nous sommes en pleine fête de la science jusqu'au 14 octobre. Cette info, pourtant, elle mérite notre attention. Je ne fais pas durer le suspense, il s'agit de l'enquête « Carrière en sciences, l'orientation est-elle toujours genrée ?» en 2024, réalisée par l'association Elle Bouge, en collaboration avec Opinionway, en mars dernier, auprès de plus de 6000 femmes ingénieures, techniciennes et étudiantes en formation. Et la réponse, sans surprise, c'est oui, en 2024, l'orientation est toujours genrée, notamment dans les carrières scientifiques, dont les freins ne sont pas encore, mais alors vraiment pas levés. L'enquête révèle qu'ils sont persistants et évoque une réalité alarmante, soulignant que, je cite, « les stéréotypes de genre continuent d'influencer négativement l'orientation des filles et des femmes vers les métiers scientifiques et techniques ». La structure précise, en France, seulement un quart des ingénieurs en activité sont des femmes et parmi les étudiants en sciences, seulement 30% des femmes. C'est peu, voire trop peu. Surtout que les chiffres indiquant des discriminations, hein, du sexisme et des découragements, eux, sont élevés. À l'instar des 82% des femmes interrogées qui ont fait l'expérience des stéréotypes de genre durant leur parcours, des 44% ayant entendu qu'elles étaient moins compétentes en mathématiques que leurs homologues masculins, et des 65% de femmes actives qui perçoivent les secteurs industriels comme peu accessibles. Alors, il y a bien évidemment des filles et des femmes qui franchissent les étapes, ignorent ou dépassent les obstacles, mais elles sont peu nombreuses d'une part et d'autre part, elles gardent tout de même en elles le stigmate des années collège, lycée, enseignement supérieur qui les a davantage éprouvées que les garçons, puisqu'il a fallu qu'elles composent avec, souvent, le fait d'être quasiment la seule, voire la seule fille de la classe. Garance Gourdel, hein, lauréate du prix L'Oréal pour les femmes et la science l'an dernier, nous confiait la difficulté des remarques de la part des profs d'être qualifiées de « l'autre fille », parce qu'elles sont deux et quand l'une est absente, la question se pose en ces termes-là. Et qu'elles composent du coup également avec des questionnements que les garçons n'ont pas forcément eu. Je prends l'exemple là d'Élodie Germani, lauréate elle aussi du prix L'Oréal pour les femmes et la science, décerné le 9 octobre dernier, qui, comme Garance Gourdel, a réalisé sa thèse à l'Université de Rennes en bioinformatique. Ses travaux à elle se situent au croisement de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle. On l'a rencontrée la semaine dernière pour le magazine YEG et elle nous expliquait que le choix de son orientation n'a vraiment pas été évident tant elle a intégré les stéréotypes de genre, qu'elle s'est persuadée qu'elle n'était pas faite pour les sciences. Finalement, elle a déjoué plus ou moins les pièges du genre, puisqu'elle s'est orientée vers la médecine, avant de réaliser que non, elle ne voulait pas être dans l'action dans l'immédiateté, mais plutôt dans la recherche, la résolution de problèmes qu'elle a toujours adoré depuis l'enfance, et dans le temps long des sciences, donc qu'elle continue d'explorer désormais en Allemagne, tournée vers l'amélioration des données d'imagerie médicale au sein de l'hôpital public de Bonn. Donc oui, des filles et des femmes évoluent dans les études et carrières scientifiques, heureusement. Mais les parcours sont semés d'embûches dès le plus jeune âge et les filles pâtissent d'un manque de représentation, les encourageant que trop peu à naviguer dans ces eaux qui sont quand même bien troubles, avec peu de femmes et beaucoup de sexisme autour d'elles. Alors le cas d'Élodie Germani, c'est plutôt un contre-exemple puisqu'elle est entourée de femmes depuis son passage en bioinformatique. Sa thèse a été encadrée par deux femmes avec une forte volonté de communiquer pour démêler aussi bien les problèmes relationnels que les problèmes d'ordre purement liés au cadre de sa recherche et de son doctorat. Et ce sont elles également qui lui ont fait découvrir le dispositif Elle code, elle crée dans lequel elle s'investit pendant 2 ans, avec des doctorantes qui interviennent auprès de collégiennes à Rennes pour leur apprendre les bases et fondamentaux du code informatique de manière ludique et sorore. C'est un bon exemple, en fait, des bienfaits de la sororité, de l'entraide, de la solidarité entre femmes et bien sûr de la transmission ensuite des savoirs et connaissances aux générations suivantes pour les encourager à découvrir, explorer et pourquoi pas oser se lancer dans une carrière scientifique. C'est donc plutôt positif quand on voit les dispositifs existants et pourtant on ne peut pas terminer cette actu sur une note enjouée puisque l'enquête de l'association Elle Bouge démontre qu'une fois ces obstacles franchis au cours des études, le syndrome de l'imposteur persiste et entrave profondément la progression des femmes dans ces domaines. Elles vont devoir faire face au plafond de verre, aux inégalités salariales et au sexisme ambiant. Il y a donc urgence à déconstruire les stéréotypes de genre, à diversifier nos représentations et à forger une réelle culture de l'égalité des chances qui implique non seulement la dimension femme-homme, mais aussi celle de l'orientation sexuelle et affective, de l'identité de genre, de l'origine réelle ou supposée, du handicap, etc. Parce qu'encore une fois, les discriminations s'imbriquent et les sciences sont encore un bastion du masculin, de l'hétéronormativité, cis évidemment, de la blanchité, etc.
En effet, on oppose toujours le stéréotype, les garçons en sciences, les filles en lettres. Vous avez décidé de ne pas faire de jalouse et de jaloux cette fois-ci, Marine. Alors c'est un sujet sur lequel on revient souvent dans les héroïnes, hein, les sciences et les filles. On félicite quand même, je me permets moi de féliciter notre Rennaise Élodie Germani.
It's Britney, bitch. It's Britney, bitch.
Alors après l'actu sur les sciences, Marine, vous vouliez attirer notre attention sur une sélection de sorties littéraires principalement écrites par des femmes, mais pas que.
Tout à fait, Morgane. Le monde de la littérature et de l'édition bouge, nous allons le voir avec nos invités tout à l'heure. Et comme pour les sciences, nous avons besoin de déconstruire nos stéréotypes et de faire évoluer la question des représentations. Et ce domaine, il n'est pas non plus exempt de pièges et d'obstacles patriarcaux, façonnant nos imaginaires en fonction des biais de genre que nous avons intégrés dès la petite enfance. Par esprit de contradiction, avec une transition toute trouvée, je ne vais pas démarrer ma chronique par les actus jeunes publics, mais plutôt pour changer par les actus concernant les hommes. Pas les hommes les vrais, plutôt les hommes à moitié, les hommes incomplets, les hommes imparfaits, ceux qu'on aime bien en somme, parce qu'ils doutent, parce qu'ils se remettent en question, parce qu'ils transgressent les normes établies quant à la masculinité hégémonique et à la virilité, parce qu'ils rangent leurs chaussettes ou parce qu'ils pleurent. Qu'on s'entende, je me réjouis pas du malheur de ces attendris de la vie, ni de la souffrance de ces torses et crânes dégarnis, je me réjouis en revanche que certains de ceux que l'on essaye plus ou moins de désigner par le hashtag Not All Men se dévoilent et prennent publiquement la plume et la parole pour exprimer ce que la virilité leur a fait ou leur fait toujours endurer, pour exprimer ce que la masculinité signifie pour eux hors des injonctions à l'autorité, à la force, la voix grave et la verge au garde à vous, pour exprimer les réflexions et parcours qu'ils ont traversés pour essayer de s'émanciper, un peu, beaucoup, peut-être pas trop, des diktats du genre ou encore pour exprimer leur refus des violences légitimées par la société, ou exprimer que d'autres chemins et modèles sont possibles, mais que bien sûr ça demande des efforts et une réelle volonté d'être des alliés sans médaille pour avoir changé une couche et ne pas s'être découragé devant une montagne de vaisselle. Bref, je vous recommande la BD collective réalisée sous la direction d'Anaïck Plassard. La BD s'intitule « Citer un homme, regard dessiné sur les masculinités ». Franchement, ça vaut le coup, c'est un mélange de points de vue, de style et de genre. C'est percutant et drôle. Moins drôle, mais tout aussi utile et nécessaire, c'est l'essai de Stéphanie Lamy, qui est sorti au début du mois d'octobre, qui s'appelle « La terreur masculiniste ». C'est un petit bonbon acide qui donne un peu la nausée à cause de son sujet, mais de son sujet seulement et non pas de son traitement qui lui est excellent. Pas de suspense là non plus, il s'agit d'un ouvrage sur les groupes masculinistes, cette fois les hommes, les vrais, on y est. Et c'est la cata absolue. Stéphanie Lamy, elle réalise ici un travail titanesque pour écrire ses groupuscules, qui ils sont, comment ils s'y prennent, mais aussi et surtout pour décrypter comment ils échappent à la critique médiatique et politique. De par sa posture de chercheuse, spécialiste des stratégies de désinformation et militante féministe, elle observe et analyse les faits à travers un prisme très nouveau, puisqu'elle attire notre attention sur la banalisation et la minimisation par les médias des actes et des enjeux des groupes masculinistes. On les associe pas à du terrorisme, alors que c'est pourtant leur raison d'être, leur motivation première et leur objectif principal. Sur fond, évidemment, de pensée d'extrême droite, les groupes masculinistes ne sont pas traqués, ne sont pas recherchés alors qu'ils sont identifiés, qu'ils agissent sur les réseaux, qu'ils tuent des femmes. Mais ils profitent d'une image faussée et bénéficient d'une grande impunité et flexibilité de la part des politiques nationales et aussi de la justice. Alors, j'ai déjà beaucoup apprécié ses interventions et son expertise dans le documentaire de Pierre Gault, « Mascu, les hommes qui détestent les femmes ». J'ai adoré son bouquin, je vous le recommande, Stéphanie Lamy, « La terreur masculiniste ». Petite info comme ça, glissée entre deux bouquins, elle interviendra dans le prochain numéro d'IEG Magazine, dans un article sur le sujet, évidemment. Allez, tenez bon, j'ai fini avec les hommes, ou presque. Parce qu'on les retrouve dans la BD de Noémie Fachan, alias Maédusa Gorgone, sur Instagram, sortie en septembre. Il s'agit d'un deuxième tome sur la parentalité. Le premier, c'est Maternité, miracle et malédiction, portrait pour questionner les injonctions à la parentalité. Et le deuxième, c'est Éduquer, défi du monde d'aujourd'hui. D'où le « ou presque » concernant les hommes, puisqu'en 2024, l'éducation des enfants, comme les tâches ménagères, incombe encore aux femmes majoritairement. Heureusement, notre Gorgone des temps modernes nous présente ici la réalité de la situation avec ses difficultés, ses inégalités, sa charge mentale, ses discriminations et ses injonctions, mais aussi des alternatives à la parentalité nauséabonde qui oblige les femmes à être non seulement des mères, mais aussi et surtout des mères parfaites, là où la société s'accordera toujours pour faire en sorte que ça soit impossible, puisque les injonctions contradictoires ne sont jamais loin d'une maman. Il est question ici d'éducation genrée, d'éducation féministe, d'éducation non-binaire, de pluralité des parentalités, de choix, de confiance, de liberté du côté des enfants, mais aussi de freins, d'obstacles, de petites victoires du quotidien, de grandes batailles idéologiques, et l'accent est particulièrement mis sur la diversité des représentations afin de déconstruire les carcans étriqués de la famille un papa et une maman, un enfant, rose pour les filles, bleu pour les garçons, princesse pour les filles, chevalier pour les garçons, passivité pour les filles, action pour les garçons, douceur pour les filles, brutalité pour les garçons, bleu sur le corps des filles, rouge colère sur les joues des garçons. Pas besoin d'être hétéro cisgenre pour élever un enfant, pas d'obligation à être à deux pour l'accompagner, et non, promis, il ne sera pas déséquilibré. Bref, vous avez compris le gros du truc, mais le mieux, c'est de vous faire votre propre idée avec cette chouette BD. Un autre essai à dévorer, savourer et partager, c'est le déni lesbien. 4 ans après la sortie du « Génie lesbien » d'Alice Coffin, c'est au tour du « Déni lesbien » de Sophie Pointurier et de Sarah Jean-Jacques de pointer les inégalités et discriminations subies par les lesbiennes qui souffrent encore de l'invisibilisation de leur existence et des violences dues à l'homophobie, au sexisme, racisme, validisme, etc. Pour décrypter ce déni lesbien, elles mêlent leurs récits intimes aux témoignages de 20 personnalités publiques, dont Charlotte Bien-Aimée, Fatima Das, Marie Laborie, Mélissa Lavaux, Aloïse Sauvage, Marie Patouillet, Charlie Soignon et bien d'autres. Et ensemble, elles viennent révéler les mécanismes d'une société qui manifeste fortement la volonté de maintenir les lesbiennes dans l'invisibilité et le silence. C'est une violence absolue, la société leur ôte le droit d'exister et la liberté de l'exprimer. Elles sont peu nombreuses à être identifiées comme telles au travail, par exemple, elles sont majoritaires à taire non seulement leur orientation sexuelle et affective, mais aussi leur mode de vie. Alors leurs interventions, témoignages et analyses nous éclairent en nous donnant à prendre conscience des responsabilités de ce déni dans tous les aspects du quotidien et de la société. Je me permets un bémol qui a été souligné par Lauren Marx et par pas mal de nos followers sur Insta quand on a recommandé le bouquin. C'est l'absence de femmes translesbiennes et donc l'absence de leur point de vue et expérience, ratant le coche d'une visibilité complète et inclusive. Je m'en fais donc ici le relais, mais je vous invite à lire cet essai avec cette réflexion dans vos pensées. Sans donner de détails sur le roman d'Alizé Nister, Frapper l'épopée, je case ici le titre du bouquin. Vous pouvez l'acheter, l'offrir, l'emprunter à la Bibli ou à des amis. Il est génial, tout simplement.
Merci Marine, on retrouve votre revue féministe Yagmag sur yagmag.fr et toutes les infos et actualités sur votre compte Instagram magazine Yag. Vous avez le droit à un gros gorgeon d'eau là.
C'est ça.
Parce que faut tenir le rythme. Ouais, magazine Yag, notre lecture préférée qu'on aime explorer, découvrir et partager. Le 30 septembre, s'est ouvert à Rennes la campagne visant à développer la culture du consentement. Alors oui, je vous apprends rien. Il y a un gros souci avec le consentement dans nos cultures occidentales et notamment en France. Et ça, l'ancien procureur de la République, Philippe Astruc, l'ancien procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, il l'avait bien constaté avec l'augmentation des affaires de violences sexistes et sexuelles lors des soirées étudiantes à Rennes. Aussi, en 2022, il a initié une action coordonnée autour de la culture du consentement à destination de la population étudiante de la métropole rennaise. Donc c'est une action conjointe, il y a la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le parquet du tribunal judiciaire de Rennes, l'académie de Rennes, la ville de Rennes, l'association Liberté Couleur, qui depuis 25 ans est l'un des acteurs phares de la prévention des conduites et comportements à risque chez les jeunes en Bretagne, et en partenariat avec les établissements scolaires du supérieur engagés. Ceux qui voulaient s'engager. L'idée, eh ben, c'est des outils et des actions pour que les étudiantes, découvrent, mais je crois qu'elles le savent, elles comprennent et s'approprient la culture du consentement en interrogeant leur comportement et ceux de leurs amis. Et ça, c'est intéressant. Depuis plusieurs mois, déjà, Liberté Couleur a donc travaillé avec une soixantaine d'étudiants à la réalisation de supports éducatifs. On trouve un jeu qui s'appelle « Ça match ?» ou pas. Et des affiches de communication. Alors le jeu, il propose, je regarde Marine, vous me dites si je me trompe, un grand nombre, je vous connaissais bien le sujet, un grand nombre de situations auxquelles il faut réfléchir, enfin en tout cas qui nous demandent de réfléchir à nos interactions consentement friendly qu'on doit avoir, adopter. Alors côté affiche, il y a des slogans, je vous en donne un, des slogans. Ouais, on pourrait faire de cela des slogans. Tu ne touches pas une œuvre d'art dans un musée, les agressions sexuelles, c'est pareil. Et puis, peut-être que vous avez vu cette semaine et lu dans les abribus, sur les écrans Keolis, des messages du genre « Tu défends tes valeurs, mais ton pote est un forceur. » Celle-là, je l'aime bien. « Tu veux l'embrasser, mais elle est alcoolisée. » « Tu sens qu'elle résiste, mais tu insistes. » Voilà, et à chaque fois, il y a le slogan de la campagne qui revient. Le consentement, ça s'instaure collectivement. Et le profil Insta de la campagne qui vous est proposé. Moi, je vous donnerai toutes ces infos sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Alors, ça a le mérite de faire réfléchir, d'ouvrir le débat, de parler du problème et surtout de l'afficher dans l'espace public et pas seulement dans les espaces dédiés aux luttes féministes. Et moi, je pense qu'on pourrait même l'ouvrir aux lycéens. On oublie que voilà, à 15-16 ans, ils peuvent avoir des comportements pas très consentement friendly, donc pourquoi pas l'ouvrir au lycée rennais brétilien. Quoi qu'il en soit, c'est d'utilité publique. J'ai quelques chiffres, vous le savez bien, j'aime les chiffres. Et en bonne féministe, il faut toujours qu'on appuie notre propos, hein, sinon on ne nous croit pas. Donc j'ai quelques chiffres et donc cette campagne, elle est d'utilité publique car il y a un sondage qui a été effectué ce mois-ci par Elle et Opinion Way sur 1000 hommes. 58% considèrent comme acceptable d'insister après s'être vu opposer à un refus, estimant que leur partenaire peut changer d'avis. Alors, on le rappelle, céder n'est pas consentir. Céder par lassitude, parce que l'homme insiste lourdement, met la pression, fait du chantage, ce n'est pas consentir. 57% des hommes interprètent l'absence d'un non comme le feu vert à une relation sexuelle. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-dedans. Et seulement 36% des hommes regrettent n'avoir pas assez pris en compte le consentement de leur partenaire dans leurs agissements sexuels passés. Voilà, 36% seulement. Alors, dans les actualités, il y en a bien une dont on se serait vraiment passé. C'est celle qui se déroule actuellement au Proche-Orient. Et Gwen, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez cofondé avec Rafik Boucha l'association franco-réno-libanaise CEDARS. Et parmi les membres de CEDARS, il y a Rouba.
Oui, Morgane, effectivement. Alors, depuis plus de 3 semaines, le Sud-Liban est la cible de frappes israéliennes qui se sont intensifiées et touchent désormais Beyrouth et sa banlieue. J'ai rencontré Rouba dans le cadre de CEDARS, Rouba Kadbeh, qui est architecte, enseignante, chercheuse en urbanisme et rennaise d'adoption. Elle est arrivée en France en 2015 pour continuer ses études supérieures. Elle a soutenu en 2023 une thèse de doctorat en géographie et aménagement de l'espace sur les liens entre guerre, exil et fabrication urbaine en banlieue sud de Beyrouth, un territoire lourdement frappé par les bombes israéliennes depuis le 23 septembre. Elle suit donc, Rouba, l'actualité de son pays depuis la France avec beaucoup d'inquiétude et d'émotion comme nombre de ses compatriotes expatriés et nous livre son sentiment sur le conflit qui paralyse son pays et lance sur les routes des centaines de milliers de personnes déplacées et démunies.
Alors je vis en France depuis 10 ans déjà, ça passe vite. Et en fait, ces dernières années, c'était particulièrement difficile depuis la crise économique, le Covid, l'explosion. Et en fait, à un moment, on s'était dit qu'il ne peut pas y avoir pire pour le pays. Ça y est, on a atteint le pire. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus de pays, plus d'État. Donc, c'est bon, c'est fini. Et là, d'un coup, il y a une nouvelle catastrophe. Enfin, qui arrive et ça, c'est très très dur à encaisser, très dur à digérer. J'ai déjà vécu une guerre au Liban, mais celle-là est particulièrement difficile parce que je suis en France, dans des bonnes conditions, dans un pays qui fonctionne bien et c'est cette injustice que je ressens, que je ressentais pas forcément à l'époque, qui est voilà, très très dur à vivre. Sans parler d'être loin de la famille, d'avoir peur pour eux, de voir toutes ces familles qui quittent leur maison, qui sont à la rue, tous ces morts. C'est... En plus, c'est une guerre particulièrement meurtrière cette fois. Enfin, c'est très dur de vivre ça de loin. Ma famille habite au Liban, mes parents, mes frères et sœurs, et la famille élargie aussi. Ils sont à la frontière de la région sud, donc ils sont très proches des frappes. Après, ils habitent dans une région relativement préservée, donc ils n'ont pas encore été amenés à quitter les villages où ils habitent. Mais tout autour, c'est compliqué, c'est bombardé. Je suis toujours en contact avec eux, heureusement. J'ai pas perdu contact. Je sais qu'il y a des gens où des jours, il n'y a pas de réseau, ils n'arrivent pas à joindre leur famille. Ça, c'est très, très compliqué. J'ai pas encore vécu ça, sachant que... Voilà, sur le côté un peu plus technique, c'est compliqué les appels quand même. C'est pas fluide, on n'entend pas bien, donc ça montre un peu aussi c'est à cause des aviations et qui survolent la zone. Et donc oui, ça montre un peu un petit côté que j'arrive à voir de loin de cette guerre-là. Je regarde pas du tout les médias français sur le sujet. De toute façon, c'est pas ce que j'écoute depuis le 7 octobre 2023 sur la guerre à Gaza parce que voilà, ça représente pas la réalité. Il y a un parti pris et pour moi, c'est pas non plus très neutre ce qui est montré ici. Donc, le moyen d'information, c'est les médias arabes. Surtout Al Jazeera, aussi des médias libanais, je regarde L'Orient le Jour qui est un média local libanais. Il y a des médias alternatifs sur les réseaux comme Mégaphone par exemple, pour avoir des informations et surtout j'appelle mes parents aussi qui sont sur le terrain et qui me racontent ce qui se passe. Il y a 15 jours, on a organisé avec l'association CEDARS un événement culturel à Rennes pour faire connaître la culture et l'art libanais. Et le thème de cet événement, c'était l'espoir. Tout le monde a dit que l'espoir existe et va exister. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, je pense, tous sous le choc et voilà, ce qu'on essaye de faire plutôt, c'est vraiment d'aider le plus possible face à cette crise humanitaire très très profonde. Et peut-être c'est ça notre espoir et notre petite contribution qui permet peut-être à certains d'avoir un peu d'espoir de sortir de cette guerre meurtrière. On cherche à récolter des dons pour les envoyer au Liban via l'association CEDARS. C'est une association culturelle, mais qui aujourd'hui se sent très touchée, évidemment, par cette guerre et qui cherche à récolter des dons pour les envoyer au Liban. Et donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement grâce aux membres de l'association. Je souhaite que ça s'arrête, déjà, et que je veux vraiment que ce peuple arrive à vivre, en fait. Vraiment, c'est depuis des années, les gens qui sont au Liban ne vivent pas, vraiment. C'est des gens délaissés, ils n'ont aucun soutien, ils n'ont pas d'État, toute la communauté internationale s'en fout complètement des gens qui habitent là-bas. Et il faut un moment que ça cesse, que ça s'arrête et que ces gens puissent vivre, puissent travailler, puissent aller à l'école comme tout le monde. Donc, c'est tout ce que je souhaite.
Merci Gwen pour cette interview que vous avez réalisée de Rouba. Et surtout, merci à Rouba. De sa confiance et de son témoignage. Je mettrai les liens de l'association sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B, si vous avez envie de vous renseigner. Et puis, il y a aussi une cagnotte qui s'appelle « Ensemble pour le Liban ». Je vous regarde, Gwen, oui. Et vous acquiescez. Vous avez contacté sur place, au Liban, une association culturelle qui s'appelle Laban.
C'est ça.
Et qui s'occupe notamment d'enfants déplacés, qui travaillent sur l'art-thérapie. Et là, l'argent de cette cagnotte qui s'appelle Ensemble pour le Liban va aller à Laban. Et Laban va aider les enfants et distribuer des repas.
Oui, alors en fait, cette association, c'est une association culturelle qui est composée d'artistes, de travailleurs et de travailleurs et de travailleuses sociaux. Et de psychologues, et qui propose des actions effectivement à destination de ces enfants déplacés en utilisant l'art-thérapie comme outil. Nous, en fait, nous souhaitions nous associer à une structure sur place qui pouvait partager, mutualiser nos valeurs et aussi nos statuts, puisque nous sommes une association culturelle et non pas humanitaire. Et donc, nous souhaitions également pouvoir garantir à nos contributeurs et contributrices que les dons soient effectivement reversés à cet asso. Donc, on mettra le lien aussi de la cagnotte, je pense, sur le blog,
ouais, bien sûr, le blog des héroïnes sur le site de Canal B. On mettra le lien vers cette cagnotte qui s'appelle Ensemble pour le Liban. Et vous nous proposez, Gwen, à suivre, d'écouter un morceau de musique que je vais vous laisser nous présenter.
Oui, alors il s'agit d'un morceau assez célèbre, enfin plutôt très célèbre d'ailleurs au Liban, qui s'appelle Li Beirut, qui a été chanté par Fairouz notamment, écrite en 1983 par le poète libanais Joseph Arb. Et qui, cette chanson, dit l'amour pour le Liban. Aujourd'hui, je vous propose d'en écouter une version revisitée et interprétée par Liliane Schreim, qui est une artiste réno-libanaise et qui, pour ce morceau et qui est inédit, est accompagnée au piano par Benjamin Koum.
Libéru. قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرات كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان أصبحت في المساء وحدها وحدها ليل
Vous êtes sur Canal B dans les Héroïnes et vous venez d'écouter Liberout, un titre de la chanteuse libanaise Férouz repris ici par une artiste réno-libanaise, Liliane Schreim, qui est accompagnée au piano par Benjamin Koum. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gwen, Liberout est un texte écrit en 1983 par le poète libanais Joseph Arb sur une musique du compositeur Joachim Rodrigo. Il témoignait à l'époque des destructions de Beyrouth suite à l'invasion israélienne de 1982. Et comme l'histoire bégaye, malheureusement, la chanson « Liberout » redevient l'hymne du peuple libanais que l'on soutient et que vous pouvez aider par le biais de la cagnotte de l'association CEDARS que l'on vous mettra sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. On va à présent parler avec Lara et avec Mélanie car il y a peu, il y avait autour de ce plateau des héroïnes la chroniqueuse Aurélia Descordés-Gonzalez, par ailleurs chercheuse et formatrice, fondatrice de l'association d'éducation populaire Déconstruire et de l'œil du temps. Un jour, Aurélia, à ce plateau, elle a dit qu'enfant, elle n'avait jamais trouvé dans la littérature jeunesse, les dessins animés, les films non plus, de quoi s'identifier, de miroir qui lui aurait permis de se reconnaître, parce que les héroïnes noires aux cheveux texturés, ça n'existait pas. Voilà pourquoi il est si important d'offrir toutes les représentations possibles dans la culture, l'art et l'histoire, parce que ce dont les gens se nourrissent dans l'imaginaire, à travers la littérature notamment, est important. Pourtant, offrir cette visibilité-là s'apparente à du militantisme. Éditer des livres féministes, d'autrices lesbiennes, des histoires de queer, c'est le choix de nos deux invités d'aujourd'hui, Clara Pacotte, Mélanie Mola. Clara, vous êtes cofondatrice de la maison d'édition RAG, à laquelle on doit la parution c'est le jukebox des Trouberitz, on en parlera tout à l'heure, ouvrage étonnant que vous avez coécrit avec Esmé Planchon et Elena de Laurens. Il y a également War Food, chronique d'une caissière en chien, qui est une traduction du livre de Hayley Warman. Et le dernier né, c'est Malédiction de Lou Maria Lebrusque. Malédiction, un recueil de poèmes. Mélanie, vous avez fondé la maison d'édition Rennaise Fière, qui va faire paraître dans les jours à venir deux livres. Le premier va sortir dans quelques jours, le 21 octobre. C'est Te parler encore de Laetitia Finicio. Et le second, je le savais, le second il sort le 8 novembre, c'est À la fin nous ferons histoire de Marine Pérard.
Tout à fait.
Mélanie, comme Aurélia dont je parlais tout à l'heure, vous aussi vous avez cherché des représentations qui vous correspondaient et vous n'avez trouvé que des caricatures, des stéréotypes. Avec Fier, vous voulez proposer autre chose, un peu comme combler un manque que vous avez ressenti et que vous ne voulez plus qu'on ressente.
Oui, exactement. Dans la culture, on voit de plus en plus de représentations, dans les séries, en tout cas dans les films. L'avènement de Netflix a permis cela, et notamment la culture américaine qui est beaucoup autour de la diversité pardon, et l'inclusion. En France, c'est un peu restreint, mais il y a quand même des choses, mais dans la littérature, ça reste, en tout cas française, ça reste assez rare. On a des maisons d'édition indépendantes. Les grands groupes ont peur. En même temps, quand c'est Bolloré, pour la plupart d'entre eux, on comprend. Donc oui, l'idée, c'est de pallier à tout ça, d'essayer de proposer de nouvelles choses, d'espérer que des jeunes qui font leur coming out ne passent pas par les mêmes chemins que moi, c'est-à-dire de ne pas avoir de modèle de représentation. Et ça impacte beaucoup de choses. Ça a impacté, je pense, mes vies amoureuses précédente, où forcément j'imaginais que ma vie amoureuse devait être triste, devait être tragique aussi, parce que les histoires lesbiennes dans les représentations que je voyais étaient forcément tragiques. Et comme je disais dans certaines interviews, parfois on avait deux modèles, le couple lesbien et pour les hommes le couple gay. La bisexualité, la pansexualité n'existaient absolument pas, la transidentité n'en parlons même pas, selon BFM TV ça date depuis 2-3 ans peut-être, et encore. Et chez les gays, c'était tout le monde avait le sida et en mourait. Et chez les lesbiennes, une des deux mourait, soit se suicidait par amour, soit retournait avec un ex-mari. Je caricature, mais c'est un peu l'image que moi j'ai vue. Et,
qu'on a tous vu, les gens qui ont envie de s'éveiller. Et puis la caricature aussi peut-être dans la posture et dans le costume. Forcément, la lesbienne doit être comme si, et le gay comme ça.
C'est ça.
Vraiment le stéré.
Exactement. De ne pas avoir d'autres modèles de représentation, et c'est ça aussi le but, c'est d'avoir des histoires, de la fiction aussi, qui soient joyeuses, parce que en fait ça manque, de montrer autre chose que les relations amoureuses et ou sexuelles, parce que parfois c'est ça aussi, on veut juste savoir avec qui les personnes queer couchent, quel est l'organe génital en face, alors qu'en fait on s'en fout. On peut être caissière et Gwyn, et alors notre vie est peut-être chiante, mais en fait c'est ça aussi dont on a besoin, des modèles de représentation classiques, diversifiés, intéressantes ou non, mais qui permettent de montrer autre chose.
Clara, quand vous avez fondé les éditions RAG, est-ce que vous étiez aussi déterminée par ce genre de constat de ne pas avoir trouvé dans la littérature, l'art en général, de représentation qui vous convenait, qui vous satisfaisait ?
Moi, je ne pense pas que ce soit exactement ça qui m'ait motivée à la base. Je pense que ce qui m'intéressait, c'était plus de publier des textes que j'avais envie de voir exister en français. Parce que je pense que quand on grandit avec un manque de représentation, au final, on se projette sur des choses quand même, sur celles auxquelles on a accès en tout cas. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un manque de représentation énorme, et c'est quand même un peu en train de se diversifier petit à petit depuis quand même une quinzaine d'années. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement de faire exister des textes que je trouve intéressants et qui n'ont pas forcément accès à des grosses maisons d'édition, parce que c'est trop expérimental, ou c'est pas assez, ça va pas être assez vendeur, ou parce que la personne n'est pas assez connue, ou voilà. Et après, c'est sûr qu'il y a un axe très très clair qui est que c'est pour publier des personnes femmes ou assimilées comme femmes ou des personnes trans et que évidemment le but de la maison d'édition de RAG c'est pas de publier Bec BD quoi. Voilà.
Là, vous prenez le pire exemple qui soit. Enfin, on en a quelques-uns comme ça, Welbeck, Bec BD. Mais merci à RAG alors de ne pas éditer Bec BD. L'édition, on reste là-dessus. Ça serait un des derniers bastions à déconstruire. Vous en avez parlé un peu avec la caricature de Bolloré qui bouffe tout. Mais moi, je me suis posé la question quand il y a à peu près un an, Virginie Despentes, elle a créé sa propre maison d'édition, la Légende Édition, en disant qu'elle voulait des voix de femmes, des voix de personnes de la culture LGBTQIA+. Et alors que moi, bêtement, je m'étais imaginé qu'une fille comme elle, avec le pouvoir qu'elle a, pouvait convaincre ses éditeurs à elle. Je pense à Grasset en me disant elle a le pouvoir de les convaincre d'éditer. Parce que ça a vraiment aussi de la force. Ben non, en fait, apparemment non. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quoi encore les réticences ?
Moi, je pense que leur réticence, ce n'est pas vraiment le sujet en lui-même, puisque... Il y a quand même Constance Debré, par exemple, qui est éditée par des énormes maisons d'édition sur de l'autofiction lesbienne, ce qui, il y a quelques années, n'était pas possible. Mais c'est parce que, sans vouloir trasher Constance Debré, mais ça, elle représente quand même une certaine classe sociale, un certain type de lesbienne. Elle a accès à cette culture par son éducation, tout simplement, et aussi parce que c'est quelqu'un de très éduqué, etc. Je pense que juste en fait les réticences des grosses maisons d'édition c'est de pas vendre déjà et aussi de pas faire de sensationnalisme parce que c'est vrai que si on écrit un bouquin qui fait 100 pages et qui parle d'une vie un peu de lesbienne qui n'a pas de retentissement super culturel ou super investi dans le militantisme ou je sais pas quoi en fait ça n'apporte aucun argument de vente pour des grosses maisons d'édition, je pense.
Après, elles ont aussi le fonctionnement d'avoir des best-sellers qui se vendent très bien et de pouvoir justement profiter pour éditer d'autres choses. Mais en fait, ça se poserait plus alors en termes de lutte des classes.
Moi, je pense.
carrément. Hein. Et donc, finalement, c'est militant, l'édition queer. Ça reste militant, ça implique plus qu'un travail d'éditrice.
Oui, il y a aussi, pour revenir sur la question précédente sur les grands groupes, il y a aussi, j'ai l'impression, en France, ce côté-là, en tout cas, on me l'a dit plusieurs fois, que c'est une niche. Pourtant, c'est une niche qui, selon l'Ipsos, on représente 10% de la population, c'est une personne sur 10. Pour la génération Z, sur les derniers sondages qui ont été faits, c'est 18% de la population de la génération Z, c'est-à-dire une personne sur 5. On n'est plus sur de la niche, mais culturellement, il y a quelque chose de niche et il y a aussi quelque chose de ça se vend pas assez bien. C'est l'imaginaire qui est comme ça et qu'on va pas vendre et du coup qu'on n'aura pas de retour sur investissement.
Donc on est bien sur la lutte des classes avec le capitalisme et l'ultralibéralisme qui s'ajoutent et qui maintient la tête sous l'eau de ces ouvrages. Et aussi, sans doute, chez vous, je pose la question, et peut-être envie d'en finir avec les caricatures sorties tout droit des imaginaires des éditeurs qui sont, pour la plupart, je ne les connais pas tous, cis, hétéro, blanc, vieux, et aussi le manque de capacité à se représenter l'autre dans une autre dimension que d'être cis, hétéro, blanc, vieux.
Oui, je crois. Et l'idée de sortir de ce modèle aussi très parisien. En tout cas, l'impression de ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est l'éditeur parisien et que tout se passe là-bas, alors que non, il y a d'autres choses qui se font ailleurs.
Moi, si je peux juste répondre sur un autre point, c'est que je pense que ce que permet en fait l'édition indépendante, c'est aussi, comme vous parlez de caricature, etc. Moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de réinventer en fait nos propres caricatures et de faire des trucs drôles et de pas devoir répondre en fait à l'humour qui va plaire à un certain type de personne. Et si on veut juste utiliser notre propre humour qui est quand même culturellement ancré dans nos existences en fait et qui est quand même une culture à part. et ben en fait on n'a pas besoin de répondre d'une personne qui va pas le comprendre juste parce qu'elle fait pas partie de ce mode d'existence, quoi.
Je vous propose qu'on revienne sur les caricatures drôles, ou en tout cas l'humour, que moi j'ai retrouvé dans l'un des ouvrages de Rag notamment. Mais avant ça, je vous propose d'écouter, de faire une nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes et d'écouter Ouin Ouin Boogie. C'est un titre de Chloé Delhomme et ça c'est extrait de son deuxième album Sentiment Négatif qui est paru en avril dernier sur le label Doki Doki. Et qui est paru en fait en même temps que son livre Falers, qui est lui paru aux éditions Point Féminisme en avril 2024. Donc, et les deux sont liés, puisque dans le livre, vous allez retrouver les textes des chansons qu'on retrouve sur l'album. Le postulat de départ du livre et du disque, c'est simple. Comment faire pour que les hommes cessent de violer? Utile quand on sait qu'une femme est victime de viol toutes les 7 minutes dans le monde. C'est Ouin Ouin Boogie et c'est Chloé Delhomme. Et son titre Ouin Ouin Boogie, extrait de son album Sentiments Négatifs sur Canal B dans les héroïnes. On est avec Mélanie Mola et avec Clara Pacotte pour parler d'édition rennaise. D'abord, il faut le souligner, on parlait de parisianisme il y a quelques minutes, des éditions rennaises et des éditions queer, des éditions inclusives. On parlait de caricatures drôles, Clara, avant d'écouter, de faire la pause musicale. Est-ce qu'on peut dire que le jukebox des Trauberitz entre dans cette catégorie-là?
Je pense que, enfin oui, il y a des choses drôles dans le jukebox des Trauberitz et c'est aussi une sorte de d'hommage, enfin j'aime pas trop ce mot, mais à un livre de Monique Wittig et sa femme, enfin sa copine à l'époque qui s'appelait Zande Zweig, et elles ont écrit Le Brouillon pour un dictionnaire des amantes en 1976. Et en fait, le jukebox des Trauberides, c'est un peu une suite à ce dictionnaire mythologique lesbien, un peu drôle, plutôt pinçant, on va dire. Et donc le jukebox, c'est plein de nouvelles entrées à ce dictionnaire, enfin celles qui n'existaient pas en tout cas dans celui d'origine. Donc c'est un peu de la citation, c'est un peu des blagues, c'est un peu de la poésie, de la mythologie lesbienne réinventée, etc. Donc oui, c'est une sorte de caricature.
Je vais me permettre, en même temps, c'est mon émission, je sais bien ce que je veux, de lire les deux ajouts qui ont donc été faits dans le jukebox des Trauberitz. C'est à la lettre M, comme Morgane. Marée basse, marée basse. Certaines écriveuses sont littorales. Leurs textes sont à marée basse. Elles ne savent écrire que du bout de leurs orteils sur le sable mouillé. Elles ne savent écrire qu'en sachant que tout sera effacé. Par extension, on parle d'histoire vécue à marée basse. Le temps que la mer remonte, c'était un baiser de marée basse, soupire-t-elle. Une heure plus tard, les vagues se fracassaient sur les rochers et elle était partie. Les marées, les filles et les bateaux cabarets de bord de mer, hache des sables. Et un autre, plus court, mais que j'aime beaucoup. Puzzle, verbe. L'instant où la jambe de l'une complète parfaitement la hanche de l'autre. Je te pulse, tu me pulse. Voilà, ça c'est...
C'est beau.
C'est beau, hein. Ouais, ça c'est dans le jukebox des Trauberitz. Alors pareil, ça j'ai appris, moi je savais pas ce que c'était. Trauberitz, on peut donner, expliquer ce qu'elles sont.
Du coup, les Trauberitz, c'est le féminin du mot troubadour. Dans la langue occitane, donc c'est des conteuses à la base, il y a très longtemps au Moyen-Âge, plutôt musicales, et c'est le terme que nous on a repris du livre original Le Brouillon pour un dictionnaire des amantes, qui est les porteuses de fables. Donc ce serait un peu l'explication, l'équivalent de Trauberitz.
Mélanie, moi j'aimerais bien, alors c'est pas de la caricature, loin de là, mais j'aimerais bien qu'on dise deux mots du travail de Raphaël Philâtre, qui a fait un travail très poétique, très incroyable. Coloré. Ouais, incroyable.
Raphaël, je l'ai découverte via le compte Instagram de la librairie parisienne Violette & Co, qui est une librairie queer, féministe, lesbienne, qui a réouvert il y a 2 ans. Et Raphaël avait fait les posters et les illustrations marque-pages et autres pour la librairie, pour la campagne Ulule. Et quand j'ai lancé le projet en début d'année, je me suis dit j'aimerais beaucoup que ce soit Raphaël qui fasse les couvertures. Donc je l'ai contacté en lui proposant d'être l'illustratrice pour les 3 premiers livres. Elle a accepté directement et elle avait carte blanche. Donc je lui disais tu as les manuscrits et tu proposes ce que tu sais faire et on partira là-dessus en fait avec en travaillant toutes les trois ou tous les trois avec elle, moi et l'auteur ou l'autrice qui était qui donnait son manuscrit et à chaque fois on a adoré en fait. Enfin ça reprenait exactement le manuscrit, elle comprenait la poésie de chacun des textes et elle mettait sa patte et du coup à chaque fois il y a des éléments de chaque livre, la main de dans la couverture de Te parler encore, c'est la main du père avec les 3 personnages principaux, enfin ouais, il y a toujours des références au livre et je suis fan tout simplement.
Et vous parliez des 3 ouvrages, il y en a 2 en tout cas qui sortent là le 21 octobre, le 8 novembre. Concrètement, comment on fait de l'édition en 2024? On sait que c'est pas un secteur qui va très bien. Économiquement, ça fonctionne comment? Mélanie, je sais que vous avez lancé une campagne de précommande.
Pour moi, c'est le modèle économique qui me paraissait le plus sûr à court terme. J'ai eu un prêt en début d'année pour pouvoir lancer tout le travail d'édition. Et pour les 3 premiers livres, en tout cas, à chaque fois, je commencerai par des précommandes via Ulule ou autre plateforme pour avoir une trésorerie fixe. Et l'idée, c'est d'avoir une autre activité dans la maison d'édition qui sera plutôt du conseil en entreprise et plutôt du conseil sur l'inclusion des personnes LGBT en entreprise, mais plutôt dans l'ouest de la France. C'est des choses qui se font déjà à Paris, plus ou moins grandes, enfin dans les grandes villes, et qui du coup va s'exporter très rapidement dans le coin. Donc l'idée, c'est de travailler sur la partie conseil, chose que je faisais déjà auparavant, pour pouvoir alimenter financièrement la maison d'édition, car pour l'instant, elle ne pourra pas se suffire à elle-même. Et surtout, je ne pourrais pas me vivre avec cette maison d'édition uniquement.
Chez RAG, on a pris le parti, mais je pense que c'est pas que financier, d'éditer des petits formats que j'adore moi parce qu'en fait, ça se trimballe hyper bien.
Mais ça rentre dans la poche du jean arrière.
C'est ça, voilà. Mais c'est aussi peut-être une raison économique.
En fait, avec RAG, nous, on est, je ne sais plus comment on dit là, flux tendu ou je ne sais pas quoi.
Ouais, en flux tendu.
Mais en fait, on édite un livre et on doit le vendre pour pouvoir en éditer un autre. Donc, on ne peut pas se permettre de publier énormément de livres tous les ans. Je pense que le max, ça sera 3, quoi. Et le dernier a super bien marché. Enfin, le Hors Food a super bien marché. Donc, il y a la question de réimprimer. Et donc, ça devient en fait une vraie question, le modèle économique. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à dépasser les 500 exemplaires, si on doit réimprimer ou si on doit publier un nouveau livre, il faut se poser la question, est-ce qu'on republie ou est-ce qu'on fait des nouvelles choses. Donc nous, on est vraiment une très petite économie, quoi. C'est s'il y a un livre qui marche pas du tout, on n'aura plus d'argent, voilà.
Et alors je reviens, vous l'avez cité, je l'ai cité tout à l'heure aussi, War Food. Comment vous avez fait? C'est elle qui vient vers vous, elle est Warman, ou c'est vous qui l'a contactée pour avoir la possibilité de traduire ce texte?
Alors en fait l'histoire, c'est que moi j'ai trouvé le livre en version originale dans une librairie qui s'appelle After Eight Books, qui sont des gens maintenant qui sont des amis et j'adore cette librairie, ils vendent beaucoup de livres en anglais. Et en fait la couverture était tellement trash, parce que nous on l'a publié en noir et blanc, mais en fait c'est une peinture en couleur qui est vraiment assez crue. Que j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu en prenant l'avion pour aller en Allemagne, et je l'ai lu d'un trait et je l'ai trouvé trop bien. Et en fait on a créé RAG, c'était il y a un moment, c'était en 2018, et quand on a créé RAG, je me suis dit, ah mais en fait pourquoi je n'écrirais pas à l'autrice pour lui dire que j'ai envie de traduire son livre, quoi. Et donc je l'ai écrit sur Instagram et elle était trop contente. Et je lui ai dit, bah, moi, je peux le traduire. Si tu veux le relire, il n'y a pas de problème. Faire relire par des francophones, il n'y a pas de problème. Et on a travaillé comme ça à plusieurs sur la traduction. Enfin, d'abord, moi toute seule, puis ensuite, après, à plusieurs. Et en fait, elle est juste trop contente que son livre existe en français. Et en fait, en 4 mois, on a tout vendu. Donc là, on va travailler sur son prochain livre.
Je rappelle, Mélanie Mola, vous êtes la fondatrice des éditions Fier. Il y a 2 ouvrages qui sortent le 21 octobre, le 8 novembre. Clara Pacotte, vous êtes cofondatrice des éditions RAG. Ce sont 2 maisons d'édition rennaises, inclusives, queer, tout ce qu'on aime. Mélanie, il me semble que le 20 octobre, on vous retrouve à Dangereuse Lectrice, le festival, pour une table ronde autour de Éditer les luttes.
Oui.
Ça s'appelle comme ça, j'aime beaucoup ce titre. Donc si vous voulez, pourquoi pas continuer d'écouter Mélanie, ça se passe le 20 octobre. Nous, on va se quitter parce que le temps file quand on est en bonne compagnie. Et c'est déjà la fin. Merci Marine.
Merci.
Merci Clara.
Merci.
Merci Mélanie.
Merci.
Merci Gwen.
Merci Morgane.
Première, et je suis sûre que c'est la première d'une longue série. Bah ouais, moi aussi. On vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien. Lisez bien. Voilà, allez lire de bons livres. Et bien sûr, on retrouve toutes les infos sur le blog des héroïnes sur le site internet de Canal B. Et on va se quitter avec un jeune artiste, un homme pour une fois, mais quand ils sont de qualité, on les accepte. Alors, il s'appelle Sam Sauvage. Retenez bien son nom, il est brillant. Et son titre, c'est « La fin du monde ».
venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde dans ses muettes. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie.